Un masque et des accessoires textiles écologiques et chics pour le bien de tous. Quelle belle idée! Spécialisé dans la confection de masques lavables de catégorie 1 et autres accessoires textiles, Atelier 29 ouvre le 8 juin 10 rue du Canton à Cognac. À la fois ergonomique et esthétique, nos masques allient artisanat et sécurité. 100% coton, 100% charentais, personnalisable à souhait. Pour les professionnels et les particuliers, trois modèles en 22 couleurs vous sont proposés. Atelier 29, notre savoir-faire, votre style. Info et commande dès maintenant sur atelier29.fr.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le Paris que vous aimâtes n'est pas celui que nous aimons et nous nous dirigeons sans hâte vers celui que nous oublierons. Ainsi Raymond Queneau ouvrait-il son poème intitulé « L'Amphion » composé en 1923. Quelques décennies plus tard, son camarade de l'Oulipo Jacques Roubaud lui rendait hommage en ouverture de son recueil intitulé « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains ». Le tout premier poème du livre s'intitulait sobrement « Paris » d'après Raymond Queneau. Le Paris où nous marchons n'est pas celui où nous marchâmes et nous avançons sans flamme vers celui que nous laisserons. Mathématicien, poète, membre de l'Oulipo qu'il rejoignit 6 ans après sa fondation en 1966, Jacques Roubaud est un infatigable arpenteur de Paris. « Marcher dans les rues, lire les rues, voilà ma tactique », écrit-il. Le 2 juillet 2007, Emmanuel Laurentin l'avait reçu dans la Fabrique de l'Histoire sur France Culture pour évoquer son lien à cette ville et la façon dont elle était devenue, pour lui, un matériau poétique.
Premier temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée à un sujet fort vaste que nous n'aborderons que par fragments, Paris. Alors que la capitale s'est vidée d'une partie de ses habitants et conséquemment remplie d'une partie de ses touristes annuels, nous allons jusqu'à jeudi approcher quelques aspects de son histoire. Demain, nous nous intéresserons à l'attirance qu'elle a exercée et exerce encore sur certaines catégories d'Américains, les jazzmen, les artistes ou les intellectuels. Mercredi, nous suivrons la Seine et son histoire du milieu du XVIIIe siècle à aujourd'hui, avec Isabelle Bacouche et Christophe Charles. Jeudi, lors du débat historiographique, nous inviterons 4 historiens qui récemment donnèrent, à l'exemple de Walter Benjamin, comme titre à leur livre Paris, capitale 2. Et aujourd'hui, nous recevrons le poète Jacques Roubaud, arpenteur de la capitale et auteur, il y a presque 10 ans, d'un recueil intitulé « La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains », un recueil dans lequel Jacques Roubaud chemine aux côtés de Baudelaire et de Raymond Queneau et construit le portrait d'une ville dans laquelle l'histoire a laissé bien des traces. Mais est-ce l'histoire ou la géographie qui se dévoile quand on marche dans Paris? C'est ce que nous verrons ce matin avec Jacques Roubaud, également auteur d'un texte qui accompagne un livre de photographie réalisé par Marie Babet et publié aux éditions Créafis et qui s'intitule simplement « Canal Saint-Martin ». La rue d'Amsterdam descend et remonte, monte et redescend, ainsi fait ma rue. Je monte ou descends la rue d'Amsterdam, je descends ou monte d'Amsterdam la rue. On dit qu'on descend, on dit qu'on remonte, les rues descendantes, les montantes rues. On le dit aussi des rues hésitantes, on le dit aussi des plus plates rues. On monte les rues sur leur macadam ou par leur trottoir, on descend les rues. Ainsi je descends ma rue d'Amsterdam, ainsi moi je monte d'Amsterdam la rue. Qu'est-ce qui descend, qu'est-ce donc qui monte? Que ça descende ou pas dans toutes ces rues, sont-ce les maisons qui montent, ou qui tombent-on vers le bas des rues? Que c'est les maisons, ça se voit à ce nombre, qu'elles ont sur la porte, au bord de la rue. Quand la rue descend, descendent les nombres, et les nombres montent quand monte la rue. Mais pourquoi dit-on que les nombres montent, grimpant de 0 jusqu'à l'infini? C'est parce que les nombres font une rue de nombres, la rue des entiers plus longue que les nuits. Très longue, et la rue, la grande rue des nombres, la grande rue abstraite qui jamais ne finit. On monte, on descend, on compte, on recompte, dans la nuit du monde où tout nombre est gris. Mais peut-être nos rues ne sont que des ombres de nombres jetées par les pluies, de tout petits bouts de la rue des nombres où monter des cendres pour toute la vie. Rue d'Amsterdam, c'est votre rue, Jacques Roubaud. Depuis combien de temps ?
C'est la rue où j'habite depuis maintenant plus de 30 ans. Et voilà. Et c'est une rue très passante, passante d'autobus et de piétons et de voitures, qui relie donc la gare Saint-Lazare à la place Clichy. Et moi, j'habite dans une cour où il n'y a pas beaucoup de bruit.
Alors, évidemment, ce poème, qui est tiré donc de la forme d'une ville, change plus vite, hélas, que le cœur des humains. Un titre d'ailleurs repris d'un vers de Baudelaire, transformé.
Très légèrement.
Très légèrement transformé. D'un vers de Baudelaire. Ce poème, la rue d'Amsterdam, évoque évidemment la rythmique de celui qui vous a demandé de rejoindre l'Oulipo au milieu des années 60, c'est-à-dire la rythmique de Raymond Queneau.
Oui, dans beaucoup de poèmes, particulièrement ceux qui sont comptés et plus ou moins rimés, j'ai dans l'oreille les vers de Raymond Queneau. D'ailleurs, au début, quand je rends visite, ce que j'ai fait pour ce livre, je rends visite à des endroits de Paris où Queneau a été et a composé des poèmes dans un livre qui s'appelle « Courir les rues », dont je me suis beaucoup inspiré. Donc, je reprends des vers de Queneau.
Et d'ailleurs, l'ouverture de ce recueil, c'est donc « Recourir les rues », une façon de remettre ses pas dans les pas de Raymond Queneau, parce que de toute façon, écrire une ville ou écrire sur une ville, c'est forcément, et si cette ville s'appelle Paris, Jacques Roubaud, c'est forcément reprendre ce qui a déjà été écrit, parce que c'est une ville littéraire par excellence.
Alors je me suis beaucoup intéressé aux poètes qui ont lu Paris d'une certaine façon, et ça commence très tôt, au Moyen-Âge, il y a des magnifiques ballades de Stache Deschamps, qui parle de Paris au moment où il est obligé de partir. Et il dit « Adieu Paris, adieu petit pâté ». C'est une très belle ballade de Stache Deschamps. Donc il y a plein de... Il y a Villon, évidemment. Et ceci va loin jusqu'à Apollinaire, Baudelaire. Et puis, plus récemment, par exemple, quelqu'un qui, au fond, a traversé Paris pour composer des poèmes un peu parallèlement à moi, mais d'une manière différente, qui est Jacques Reda.
Que vous citez évidemment à propos de ces ruines de Paris, en disant que par exemple, ni Queneau ni lui n'ont porté d'attention à cette pauvre tour Eiffel, et qu'il faut néanmoins, quand on est à Paris, même évidemment il faut la voir cette tour Eiffel, même si elle a été vue et revue par les cartes postales, et vous citez donc justement Jacques Reda à cette occasion.
Quand je suis parti de manière systématique dans les rues de Paris pour composer des poèmes, un petit peu parce que j'ai un contentieux avec la ville de Paris.
Oui, ça se sent.
Oui, le contentieux vient du fait que je suis de famille provençale, que j'ai passé mon enfance dans l'enfance de la guerre dans la ville de Carcassonne, avec la possibilité de marcher pieds nus, des choses comme ça, vous voyez, la tranquillité, c'était la guerre, il n'y avait pas de voiture. Et arrivé dans l'hiver 44-45, dans cette ville glaciale, c'est terrifiant.
C'était une ville glaciale au sens propre du terme, parce que c'était un hiver un peu dur. Vous le racontez dans un des poèmes sur l'ode au maître de la rue de Vaugirard. Cet hiver 44 était un hiver où il gelait à pierre fendre.
Il a été extrêmement froid. En plus, il y avait énormément encore de restrictions. Donc, on était là. J'étais en plus enfermé dans un appartement, alors que pouvant pas marcher pieds nus. Donc, j'ai eu un mauvais rapport avec Paris. Et puis, j'ai toujours un certain nombre de difficultés, particulièrement avec les automobilistes. À un certain moment, j'avais commencé à faire systématiquement un relevé du nombre des automobilistes qui grillent les feux rouges dans Paris. Il est extrêmement élevé.
Et pas seulement au carrefour de la rue de Bussy, vous voulez dire.
Non, c'est absolument incroyable. Bon, donc, à un certain moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose, puisque j'y vis de toute façon depuis longtemps. Et là, il y a une parole de John Cage qui dit « Si un bruit vous ennuie, écoutez-le. » Alors, j'ai dit, ben, bon, Paris m'ennuie, je vais y aller, je vais aller voir. Et alors, j'y suis allé en marchant, parce que j'écris en marchant, et je me suis dit, ben, où est-ce que je vais aller? Eh ben, je vais voir où ont été mes prédécesseurs. Alors, j'ai eu un problème avec, bon, Queneau, c'est très simple, j'ai noté tous les endroits où il avait été, dans Courir les rues, donc j'ai fait l'énumération, qui montre qu'il a quand même beaucoup marché, et où il prenait l'autobus. Enfin, il a quand même beaucoup marché. Et puis, je me suis dit, ben, je vais aussi suivre Reda. Et là, ça n'allait pas du tout. Pourquoi? Tout simplement parce que Reda allait à vélo. Alors, il commençait son poème dans le 16e arrondissement et on le retrouvait à la Nation. Mais moi, je ne peux pas faire ça.
Oui, même la rue de Vaugirard est un peu longue pour n'importe quel marcheur. Justement, vous disiez, c'est une ville que je n'ai pas appréhendée de façon très positive au départ, Jacques Reda. Et donc, pour se réconcilier avec la ville, il fallait y marcher. Il y a deux attitudes vis-à-vis de Paris chez les poètes, par exemple. Il y a cette attitude très positive qui insiste sur l'énergie de la ville, sur sa capacité créatrice, sur son bouillonnement. Et puis, il y a une attitude un peu réticente, en tous les cas, vis-à-vis justement des mauvais côtés de ce bouillonnement, c'est-à-dire de cette crasse, quelquefois, de cet ennui qu'il peut y avoir, de ce revers de la modernité, pourrait-on dire, par rapport, par exemple, à Baudelaire qu'on citait tout à l'heure. Il y a les deux. Il y a une capacité à aimer cette ville ou au contraire à profondément la détester, Jacques Roubaud.
C'est-à-dire que Paris, pour en prendre la mesure, c'est quand même très, très difficile. Moi, je ne suis pas du tout historien, donc je ne connais pas vraiment l'histoire de Paris. Et pour l'histoire de Paris, j'ai lu il n'y a pas longtemps, déjà quelques années, un livre que je trouve très remarquable d'Éric Hazan, qui s'appelle L'invention de Paris. Et ça m'a beaucoup passionné. Évidemment, ce n'est pas du tout la manière dont j'aborde la ville. C'est-à-dire, je suis l'enseignement de Queneau, hein, c'est ça. Vous allez dans les rues et vous regardez, vous lisez, lire les rues. Il faut lire les rues, ce qu'il y a écrit sur le macadam, ce qu'il y a écrit sur les murs, toutes ces choses-là, ce que Georges Perec a appelé l'infraordinaire, et donc qu'il pratiquait lui aussi. Et donc, je pars comme ça. Mais évidemment, Paris, il y a toute l'histoire de Paris, il y a toute l'histoire, les événements qui
l'histoire
sont passés dans Paris.
Et les représentations de cette histoire par les écrivains, par les gens qui s'écrivaient des lettres au 18e ou au 19e siècle, par le regard rêvé que les étrangers portaient sur Paris avant même d'y mettre les pieds. Nous l'évoquerons demain pour les Américains et jeudi pour l'ensemble des populations de l'Europe, au moins, qui à un moment ou à un autre ont rêvé de venir à Paris. Et donc évidemment tout cela, c'est une sorte de substrat sur lequel il faut écrire quand on se met à écrire sur Paris, Jacques Roubaud.
Il y a bien sûr tous les événements, toutes les convulsions révolutionnaires. Il y a la Commune, il y a la 48, il y a l'occupation, il y a toutes ces choses-là, il y a 1968, il y a plein de choses convulsionnaires dans Paris, et moi je ne sais pas faire traiter ça de manière directe. Donc par exemple, j'inscris un peu une certaine affection que j'ai pour la Révolution française en parlant de mon vieil ami le maître Étalon. Parce qu'il y a un maître Étalon tout près du Luxembourg, et je l'ai rencontré quand j'avais 12 ans, on est devenus très amis, et je vais le voir très fréquemment. Donc je fais un poème pour le maître Étalon, ce qui est évidemment aussi un poème pour la Révolution française.
Et un maître Étalon en pierre et non pas un maître Étalon en platine comme celui du pavillon de Breteuil. Et c'est ce qui fait toute la différence. Un maître Étalon dans la ville, visible par tous et non pas enfermé comme dans une châsse de cathédrale.
C'est cela, il est là, et les Parisiens, quand il a été mis, ils étaient plusieurs, il avait 15 frères, et ils pouvaient aller le voir et voir ce que c'était qu'un mètre, qui était différent d'une toise, d'un pied, ou de ses mesures.
Le temps a passé, mon vieil ami, quand on s'est connu, j'avais 12 ans, et toi 148, c'était l'hiver de 1944, il faisait froid, les fontaines du Luxembourg avaient gelé, le petit peuple des statues frissonnait, les fesses des dames statues étaient toutes blanches de givre, blanc sur le marbre. Là aussi, référence à Queneau, puisque celui qui a compté presque et décrit une à une toutes les statues du Luxembourg, c'est Raymond Queneau.
Ça, c'est une chose que l'on trouve chez d'autres poètes qui ont parlé de Paris, par exemple. Précisément sur ces statues du Luxembourg, il y a des poèmes de Eddy Cadour, que j'aime beaucoup, et qui vont dans ces endroits-là. Il parle un peu les mêmes choses.
Et ce poème se termine, c'est le printemps de 1994, je suis venu te rendre visite, comme je le fais de temps en temps. Quand je passe par là, tu ne m'en voudras pas si je ne m'allonge pas sur le sol comme autrefois à tes pieds qui n'en sont pas. Les passants pourraient trouver cela bizarre de la part d'un monsieur de mon âge, même devant le palais du Luxembourg où somnolent les sénateurs de la Ve République, et ce serait vraisemblablement faire montre d'une certaine démesure. Il y a aussi cette vision du temps qui passe dans Paris chez vous, Jacques Roubaud, c'est-à-dire du temps qui laisse ses traces, un temps qui efface, remplace par d'autres les noms des rues, par exemple dans un des poèmes qui s'intitule L'Histoire. Vous évoquez la rue de Saint-Pétersbourg en disant la rue de Saint-Pétersbourg a retrouvé son nom d'avant la Seconde Guerre mondiale où elle fut assiégée par une armée de nationalité inconnue sous un nom qu'on ne doit pas dire pendant la bataille de Tsaritsyn. Alors évidemment, il faut être un peu spécialiste de l'histoire pour savoir où était Tsaritsyn.
Bon, c'est Tsaritsyn, pas vraiment spécialiste de l'histoire, mais c'est une manière indirecte de parler des événements de l'histoire qui ont eu une certaine influence pour Paris. Et en particulier, j'étais très choqué qu'un des premiers, les premières choses qu'ait fait le nouveau gouvernement de ce qui était autrefois l'Union soviétique ait débaptisé Leningrad, dont à cause de Lénine, bien sûr, mais la ville de Leningrad a été quand même une ville héroïque dans la lutte contre le nazisme, et surtout ramener le nom de Saint-Pétersbourg, alors qu'on aurait pu prendre un nom démocratique, Petrograd. Et donc, ça m'a beaucoup choqué. Saint-Pétersbourg, c'est quand même la ville des pogroms. Enfin, non, c'est... Oui. Donc, je le dis de manière très indirecte.
Oui, et bien, d'ailleurs, il y a une véritable ironie de l'histoire, à savoir qu'il n'y a peut-être qu'une seule ville en Europe, il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, mais une ville en Europe qui a une station de métro qui s'appelle Stalingrad, c'est encore Paris.
Paris a maintenu Stalingrad, je ne sais pas pour combien de temps, alors que, évidemment, une des premières choses qu'avait fait Khrouchtchev, c'était de remplacer Stalingrad par Volgograd. Et donc, il y avait à ce moment-là une anecdote qui courait, que Khrouchtchev reçoit un coup de téléphone de l'au-delà, et qui est à l'appareil ? Joseph Volgin.
Justement, cette place de l'histoire dans une ville comme Paris n'est-elle pas trop forte, trop présente pour pouvoir en profiter quand on en profite comme cela au gré des rues? Je parlais tout à l'heure d'histoire et de géographie en ouvrant notre discussion, Jacques Roubaud. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on marche dans Paris? On fait de l'histoire, on fait de la géographie ou on fait les deux en même temps?
Oh, on fait pas ni histoire en fait, ni histoire ni géographie. On marche dans la ville et on regarde autour de soi et on voit ce qui se passe. Et ça se passe quand même beaucoup dans le présent.
Donc c'est de la sociologie alors dans ce cas-là.
Peut-être pas de la sociologie.
C'est de la poésie.
Oui, voilà. C'est-à-dire la manière de le faire pour moi qui est de marcher, de composer. Pendant que je marche, je compose un poème. Et puis, si j'arrive à réussir ce poème et à le maintenir dans ma tête jusqu'à mon retour, je le note. Et donc, je vais comme ça. Alors, je ne vais pas vraiment au hasard, parce que si on va au hasard, en fait, on va selon ses habitudes. Mmh. Donc, j'ai choisi des principes. Je choisis un peu au hasard des principes, un peu de manière délibérée, des principes de parcours. Et ces principes de parcours vous amènent dans des endroits absolument inattendus. par exemple. Pendant un long moment, j'ai fait toute une série de qui découpait Paris en tranches d'orange. C'est-à-dire, je partais de chez moi, j'allais jusqu'à une porte, et puis, je parle de l'extérieur, j'allais à la porte suivante, soit vers l'est, soit vers l'ouest, et je revenais. Donc ça découpe une espèce
Une sorte de découpage administratif qu'on voudrait d'ailleurs voir appliqué pour les lycées et les collèges de la capitale, dit-on, pour pouvoir mélanger justement les populations qui sont près des portes avec celles du centre de Paris qui évidemment sont bien plus aisées, et donc en disant que ça permettrait une plus forte mixité sociale. Vous le faites, vous, avec votre marche à pied, Jacques Roubaud.
Et j'arrive dans des endroits auxquels je n'avais jamais prévu de voir. Et donc, c'est vraiment très intéressant de voir la variété, l'apparition de rues auxquelles on n'aurait jamais pensé, avec leur nom aussi, le rapport avec leur nom. Récemment, l'Oulipo, dont je fais partie, le groupe Oulipo, a été sollicité pour faire des petits films de 2 minutes. Sur des endroits de Paris. Et il y a, moi j'en ai fait un par exemple, sur le pont Mirabeau. Parce que dans le pont Mirabeau me tarabuste, d'une part à cause, évidemment, d'Apollinaire. Et donc, les questions qu'on peut se poser à partir du poème d'Apollinaire sont assez intéressantes.
Mais par exemple, dans ce même recueil, La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains, où on trouve donc ce poème Pont Mirabeau. Sous le pont Mirabeau coule l'Yonne, et nos amours, faut-il qu'ils m'en souviennent, la joie venait toujours après la ponne. Parce qu'en fait, pour vous, et vous le mettez en note, quand deux cours d'eau de noms différents se rencontrent, le cours d'eau qui résulte de leur confluence prend le nom de celui dont le débit est le plus élevé au moment de leur rencontre. Selon les mesures les plus récentes, le fleuve, qu'on nomme Seine à Paris, devrait s'appeler Yonne. Et donc, à partir de ce moment-là, on changerait totalement la vision que l'on se fait de Paris et de son centre qui est la Seine, justement.
Et il faut également réécrire le poème d'Apollinaire, ce que j'ai commencé à faire. Il y a un autre problème. D'ailleurs, ce poème d'Apollinaire pose un autre problème, qui est que il y a une strophe où il dit « Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards, l'onde s'y lasse. » Bon, c'est que autrefois, il y a bien longtemps. Je faisais visiter Paris à une jeune amie allemande, et je lui avais dit, on va à la Tour Eiffel. Elle m'a dit, non, la Tour Eiffel, je m'en fiche. On va au Sacré-Cœur, non, ça ne m'intéresse pas. Je veux aller au pont Mirabeau, parce qu'elle avait appris le poème d'Apollinaire. Donc, on va au pont Mirabeau, et on décide d'éprouver ce que dit Apollinaire. Donc, on se met sur le pont, et on se met face à face, et on met nos mains en forme de pont. Impossible de voir l'eau parce qu'elle est sous le tablier du pont. Elle a été extrêmement déçue. Je crois que certainement nos rapports sont beaucoup détériorés après cette mésaventure.
Mais il y a beaucoup d'avantages à marcher dans la ville, donc à hauteur d'homme, Jacques Roubaud. Il y a aussi quelques inconvénients. C'est que Paris est une ville qui s'est regardée aussi de haut, que les poètes, que les écrivains ont regardé de haut. C'est l'océan de toiture d'Émile Zola, par exemple. Cet océan de toiture, si, vous pouvez le voir, j'imagine, en montant du haut du Sacré-Cœur, par exemple.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, moi, j'ai un peu peur
des hauteurs.
Des hauteurs, j'ai le vertige facilement. Donc, moi, je regarde à ras le sol. Hein. Je marche.
Et c'est mieux comme façon de décrire, justement, une ville comme Paris, cet infraordinaire que vous décrivez, qui mélange, d'ailleurs, La plaque, symbole de la reconnaissance du pays, de la communauté à un homme célèbre, avec le tag ou le graffiti ou la devanture d'une boutique ou d'un hôtel, comme le Modial Hôtel, par exemple. C'est ce mélange des deux qui fait justement cette ville, qui tisse la ville, Jacques Roubaud.
Oui, il y a dans les rues de la ville, il y a ces boutiques, par exemple. Et ces boutiques, et on se rend pas vraiment compte de ça, mais c'est un des éléments qui montre de manière le plus vif le changement assez rapide dans la ville. Alors, j'ai eu une expérience, c'est l'année dernière, Il y a des professeurs de français suédois, donc professeurs de français comme langue étrangère, venant après l'année scolaire, venant en France. On leur avait donné comme tâche de marcher dans Paris. Et on leur avait, à certains, confié mon livre en disant « Vous choisissez un poème et vous allez voir ». Et il y a un des poèmes que j'avais composé était dans une rue près du métro Oberkampf. Et donc, je remonte la rue et dans ce poème, je décris ce que je vois. Ouais. Et alors, ça avait changé.
Surtout avec un
pas
titre
énormément de temps.
Sunday, Mein Oberkampf.
Oui. Mais ça avait changé de manière terrible. Ils m'ont dit, dans toute la première moitié de la rue, on ne reconnaît rien.
Oui, ben oui, parce que c'est un quartier qui a énormément bougé, qui est devenu un quartier à la mode en particulier. Et vous pointiez, dans ce poème, vous pointiez le début de ce quartier à la mode en notant, donc, à la fin de ce poème, plus haut que quelques pas, de quelques pas, un vieux café charbon, fermement rénové en style nostalgique, ne contredira pas le subséquent McDo. Donc, c'était ce café charbon, nous l'avons visité pour une promenade dans Paris que nous faisions sur la question du Paris, de la nostalgie, justement, et nous avions interrogé son décorateur, puisque c'était un décorateur qui travaillait avec Peter Brook, qui avait été donc demandé, d'origine grecque, qui avait été demandé par les propriétaires de ce café charbon pour refaire un café à l'ancienne, voilà. Là où le café ne correspondait plus aux critères que l'on voulait d'un café à l'ancienne. C'est devenu d'ailleurs un des cafés les plus à la mode, et il a lancé la mode de ces cafés charbon dans toute la rue Oberkampf et dans tout le quartier assez rapidement. Et c'est ce que vous décrivez, Jacques Roubaud. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, eh bien, la mode l'a emporté sur votre description. Votre description est déjà historique, on pourrait dire.
C'est ça. Le traitement extraordinaire permet de saisir sur le vif ces changements invraisemblables que Paris subit sans que les habitants, finalement, s'en rendent souvent bien compte.
Et puis, c'est aussi un traitement qui met, avec une certaine ironie, avec un certain sourire, qui met en parallèle des éléments de la vie que l'on ne mettrait pas naturellement en parallèle. C'est lorsque vous décrivez les 20 arrondissements au début et que vous leur donnez un qualificatif à chacun d'entre eux. Donc, par exemple, on découvre que le deuxième arrondissement est remarquable en ceci qu'il abrite la Bibliothèque nationale, ce sur quoi vous évoquez un peu plus loin le square Louvois, où vous avez passé vous êtes passé de milliers de fois sur le banc pour vous reposer de séjours assez longs dans la salle de lecture La Brousse. Et puis, ensuite, vous évoquez le 4e arrondissement. Le 4e arrondissement est connu pour son BHV. Le 16e arrondissement a de la pompe. Et le 18e, c'est la butte. Et ça suffit de dire le 18e, c'est la butte. Et le 4e arrondissement est connu pour son BHV pour se dire, voilà, on a décrit chacun de ces arrondissements, Jacques Roubaud.
C'est le problème de la saisie extrêmement brève, il faut dire, puisque dans la composition de ce poème, je devais le dire extrêmement vite, donc voilà.
Et après, évidemment, vous développez, puisque la butte, vous faites un poème sur le Sacré-Cœur, aux tétines, au biberon, avec ta grosse tétine en forme de croix. Vous n'aimez pas beaucoup le Sacré-Cœur?
Pas énormément.
Ça se sent.
Et vieux républicain.
Et vous continuez donc avec d'autres arrondissements dont vous développez pour chacun d'entre eux les qualités ou les défauts. Vous venez aussi dans notre bonne maison. Il y a un sonnet, le sonnet 16, maison de la radio. Porte A, porte B, porte C, porte D, porte E, porte F. Un soir de mémo sad, je tourne dans le sens direct puis rétrograde. Porte F, porte E, D, C, B, A, B, C, etc. Et là, évidemment, on reconnaît notre bonne maison, mais vous avez eu la chance cette fois-ci de trouver le bon studio au bon moment pour venir nous parler. Mais auparavant, c'était l'expérience aussi de quelqu'un qui tourne sans arrêt dans cette maison ronde.
Oui, j'ai eu quelquefois des difficultés parce que j'avais mal saisi les indications qu'on m'avait données et je me perdais complètement entre les radiales. C'était absolument terrible.
Alors, si on veut approfondir justement ce rapport à l'infraordinaire, ce rapport à Paris, est-ce qu'on peut dire que votre tentative de promenade à l'intérieur de la ville, de la parcourir de long en large, par quartier ou par quartier d'Orange, vous a réconcilié Jacques Roubaud avec cette ville, ou est-ce que il y a toujours ce petit sentiment, disons, désagréable que vous aviez lorsque vous êtes arrivé enfant en 1944 dans Paris, ou est-ce que ça a un peu changé?
Oui, bien sûr, le conseil de Cage n'était pas mauvais. En même temps, c'est vrai que je me suis pas réconcilié avec les automobiles. Il faut dire que je suis un piéton qui n'a pas de permis, qui n'a jamais possédé d'automobile, qui ne se déplace pas. Et en particulier, je suis très ignorant de ces animaux-là et je les vois avec une absence de plaisir considérable.
Mais vous devriez être heureux des derniers développements du rapport de la ville à ces automobiles, donc cette façon que les automobilistes critiquent énormément de se voir rejeter petit à petit en périphérie des villes en disant on va privilégier les transports en commun, les vélos, on va installer bientôt donc un service de vélo en libre service un peu partout dans Paris. Est-ce que ça vous fait plaisir ça, Jacques Roubaud, en tant que piéton, ou est-ce que ça change pas grand chose à votre vision?
Ben, je sais pas, peut-être ça va être bien. Simplement, le problème, c'est que les deux roues sont pas beaucoup plus sympathiques aux piétons que les automobiles.
Vous voulez dire que les deux roues se comportent comme les quatre roues?
Ah oui, et puis en plus, ils démarrent beaucoup plus vite au feu rouge, et ils sont d'une certaine manière encore plus dangereux. Alors, non, pour le piéton, je vois pas de solution excellente.
Et cette évolution que vous avez pu noter en vous promenant dans Paris, elle va dans quel sens, selon vous, entre l'hiver 44 et aujourd'hui, plus de 60 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? On dit souvent, par exemple, que la grande transformation aux yeux des Parisiens, de ceux qui vivaient à Paris, c'est la blancheur par rapport à la noirceur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a frappé, par exemple?
C'est vrai que le changement des façades est tout à fait évident par rapport aux premières images que j'ai gardées de Paris. Vraiment, les façades très sombres, très couvertes de suie. Et là, c'est nettement plus propre. Bon, pour moi, c'est pas forcément mieux, hein. Mais bon, c'est vrai que ça fait partie de ce changement. Et puis, bon, bah, évidemment, le changement principal, c'est le caractère, le fait qu'il n'y a quasiment plus de Paris populaire, populaire au sens ancien. Au sens ancien, il y a plus de variété, de population, mais quand même, Paris, c'est plutôt riche.
Et ça se voit à pied, justement, vous le percevez?
On voit tout ça. Oui, on voit beaucoup de choses à pied. Hein. Ça se voit. Ça se voit de manière évidente. Et puis, il y a des choses que l'on note parce qu'elles disparaissent. Mmh. Des choses qui ont disparu et qui ont une certaine implication qu'on ne saisit pas forcément. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas très longtemps, c'était l'année dernière, j'ai été invité à Aubervilliers, donc c'était une invitation du directeur du théâtre d'Aubervilliers, parce qu'il avait confié à quelqu'un qui s'intéressait à mes poèmes de faire un groupe de travail avec des jeunes et des habitants de la ville. On leur avait dit, bah, vous allez venir et on vous donnera les poèmes et vous pourrez les mettre en scène ou en lecture. Bon. Donc c'était très sympathique, très agréable. Et donc après ils ont présenté les poèmes devant le public. Et à la fin, il y a un de ces jeunes, c'était les jeunes gens surtout, qui prend la parole et qui dit, Monsieur Roubaud, je vous remercie particulièrement pour un poème. Alors ce poème, c'est le suivant. Ça s'appelle Boulevard Arago. Mmh. Et dans Jeudi, boulevard Arago, une pissotière, dans la dernière pissotière peut-être.
Absolument.
Et au pied du mur de la prison, auprès du mur de la santé, qui ne sera pas la dernière prison.
Boulevard Arago, sous les marronniers, une pissotière, la dernière peut-être à l'ancienne, au pied du mur de la santé, qui ne sera pas la dernière prison.
Alors, j'ai noté cette coïncidence, donc quelque chose qui disparaît, et la prison de la santé. Il me dit, je vous remercie pour ce poème, et il avait lu dans le poème de la manière suivante. Au pied du mur de la santé, qui ne sera pas ma dernière prison. Ça m'a fait un choc. Donc, l'irruption d'un réel que je ne saisis pas, moi, dans toutes ses implications. Moi, j'avais visé, évidemment, surtout ce changement de la ville qui se perd, les pissotières qui ont disparu. Mais la prison était là.
Oui, les pissotières qui ont disparu, qui ont été remplacées par des édicules un peu moins... non pas qu'ils soient moins hygiéniques, au contraire, ils sont plus hygiéniques, mais effectivement, ils conduisent peut-être à moins de rapports avec les habitants que ce qui existait auparavant, en tous les cas. Alors, ces changements, ces micro-changements, pourrait-on dire, que vous notez, qui d'un seul coup deviennent de l'histoire, puisque très rapidement, ils sont eux-mêmes remplacés par autre chose, tout cela vous inscrit dans une longue histoire. Si vous repreniez ce livre et si vous tentiez, comme vous avez fait avec Raymond Queneau, de redire les rues où vous êtes vous-même passé, Jacques Roubaud, vous le faites peut-être d'ailleurs. Est-ce que vous le faites, ça ?
Un petit peu, par exemple. Là, récemment, j'ai reçu une commande. Bon, j'aime bien travailler, comme d'ailleurs la plupart des membres du groupe Oulipo, on aime bien travailler sur commande privée ou commande publique. Et là, il s'agissait de faire un poème par arrondissement, très bref, enfin assez bref, ne dépassant pas une minute à la lecture, qui sera confié à des musiciens et qui sera joué, le résultat sera joué l'année prochaine. Bon, alors j'ai fait ça, et ça m'a évidemment amené à... Alors, je suis allé dans des endroits où je n'avais pas été, dont j'avais découvert l'intérêt particulier depuis que j'ai écrit ces poèmes, mais je suis allé revoir aussi. Je suis allé revoir, et en particulier, je suis allé revoir la rue Oberkampf.
Qui a donc énormément changé depuis que vous avez...
Qui a de nouveau changé, mais relativement moins. Oh ben, il faut dire en un an, il n'y avait pas beaucoup le temps de changer. Et donc, je suis allé voir. Et puis, je suis allé aussi près de la Bibliothèque nationale, l'ex-salle de lecture.
Oui, et donc, il y a là beaucoup changé, puisque désormais, il faut se rendre du côté du quartier de Tolbiac pour pouvoir avoir les mêmes activités, pourrait-on dire. Désormais, maintenant, cette rue de Richelieu est dévolue à futur Institut National d'Histoire de l'Art.
Oui, c'est ça. Et la salle de lecture, où j'ai été si longtemps, et où Queneau a été longtemps, m'est inaccessible.
Alors, il y a quand même quelque chose, c'est que votre pari... C'est le pari, pourrait-on dire, d'un seul, c'est le pari de quelqu'un, c'est un pari individuel, pourrait-on dire. Évidemment le regard de Jacques Roubaud sur une ville comme celle-ci, sur une capitale, mais on y voit assez peu, sinon par des échos lointains, le pari collectif qui a beaucoup fasciné, qui a beaucoup... fait couler beaucoup d'encre, ce pari des révolutions, ce pari des révoltes et des manifestations. Alors, on le trouve effectivement avec votre regard individuel, comme cela, de loin en loin. Mais est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre les deux ? C'est-à-dire, est-ce que votre regard personnel peut justement aller dans cette promenade infraordinaire jusqu'à faire ressurgir ce bouillonnement qui a tant fasciné, justement, ce bouillonnement collectif.
Parfois, je ne sais pas. Moi. C'est-à-dire, ce que je fais, c'est un travail de poésie. Je fais un travail de poésie et il se trouve que mon matériau, c'est Paris. Donc, comme je travaille en marchant, je vais dans Paris, je marche et... Bon, il y a ce que je rencontre. Mais je vais pas tellement chercher l'histoire, chercher dans l'histoire de Paris. Simplement, si il se trouve que ça se rencontre par hasard, donc à ce moment-là, je le fais.
Mais il faut dire que il faut que vous le croisiez, cela. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un enquêteur, vous n'allez pas chercher derrière, vous n'êtes pas de ceux qui veulent comprendre en allant derrière la façade, en poussant les portes et en allant interroger les habitants. Il faut que cela se donne à vous dans votre itinéraire, avec le hasard de cet itinéraire, pour que ça apparaisse dans votre travail, dans votre œuvre de poète, Jacques Roubaud. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses qui sont laissées de côté. Par exemple, tout ce qu'on disait du Paris, du sexe ou de la sexualité, même si vous parlez de la rue d'Amsterdam, de ce quartier autour de Saint-Lazare, qui était un quartier autrefois, un quartier de prostitution assez, assez fort. Tout cela, est, évidemment, n'est pas visible tout de suite, quand on s'y promène, il faut un peu pousser les façades, aller dans les cours intérieures, monter dans les étages pour pouvoir le voir. Et ça, vous ne le faites pas, vous, Jacques Roubaud.
Oui, j'ai lu beaucoup de choses sur Paris, mais cette manière de faire, en dehors, de bien entendu, du travail de l'historien ou du sociologue ou du politique, c'est un travail de romancier pour moi. C'est Zola, quoi. C'est un travail de romancier. Et moi, je suis pas romancier, alors, je procède à ma manière, et c'est simplement ce que je vois quand je marche.
Est-ce qu'il y a un rapport avec une autre façon d'envisager la ville, qui était celle des surréalistes, avec le hasard objectif, ou est-ce que vous avez été nourri de cela, ou est-ce qu'au contraire, ce sur quoi vous avez fondé votre travail avec l'exemple de Raymond Queneau, c'est justement quelque chose de différent et une sorte de pas de côté par rapport à ce que faisait Breton et son groupe, par exemple.
Ah oui, il n'y a pas du tout de recherche de merveilleux. Ni de hasard objectif, ni de merveilleux, ni de miracle, ni de bizarrerie spéciale. Non, ça ne m'intéresse pas du tout. Hein.
Mais lorsque ce merveilleux survient par hasard, justement, quand il vous croise dans son chemin, vous ne le voyez pas comme du merveilleux.
Non, je ne vois pas le merveilleux. Je suis pas sûr qu'il y en ait tellement. Donc, c'est ça, c'est la même démarche que celle de Queneau et que celle de Pérec aussi. Donc, ce qu'il a appelé l'infraordinaire. Et donc, voilà. Bon, c'est un pari de quotidien. Hein. C'est pas un pari de rareté.
Et donc, les serrures qui ferment mal sur l'infini, tout cela, ça ne vous dit pas grand-chose. Et au contraire, c'est ce dont vous vous éloignez d'une certaine façon, Jacques Roubaud.
Oui, bien sûr. Bien sûr. Je n'y suis pas à l'aise du tout. Pas à l'aise du tout. Moi, c'est de la métaphore. Hein. Je vois pas d'ouverture sur l'infini du tout.
Alors, si on va voir un peu du côté de l'histoire, ou les quelques traces de l'histoire que vous laissez dans cet itinéraire. Il y a par exemple, on l'a évoqué, les noms de rues qui changent ou qui ne changent pas. Il y a aussi les rois, par exemple. Vous dites, quand même, on n'a pas fait grande place à nos rois dans notre belle capitale. C'est un endroit, par exemple, où les rois n'ont pas droit de cité, d'une certaine façon, sans faire de jeu de mots.
Sinon... Oui, la Révolution française est passée par là. Non, après la composition de ce livre, après la fin, j'ai découvert, grâce à François Karadec, un livre absolument merveilleux qui est offert par la mairie de Paris et qui est un répertoire des rues de Paris pour leur description administrative, c'est-à-dire qu'on vous dit quelle longueur il y a, quand la rue a été baptisée, par quelle loi, et d'où vient son nom, etc. Et à la fin de ce répertoire magnifique, vous avez la liste de toutes les rues qui ont perdu leur nom, ou qui ont disparu. Les rues mortes. Ça, c'est absolument merveilleux. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça depuis que j'ai fini le livre. Et il y a en particulier une rue que j'aime énormément, qui est la rue où Dieu fut bouilli. Voilà. Et que l'on peut trouver maintenant, évidemment, elle ne s'appelle plus comme ça, mais c'est un morceau de la rue des Archives, près de l'ancien couvent des Billettes, dont vous partez du BHV, et vous suivez la rue des Archives, et sur une centaine de mètres, c'est là qu'était la rue où Dieu fut bouilli. Ce qui est quand même une aventure sérieuse pour pour là-haut, là-haut.
Et pour le poète aussi. Alors, très récemment, vous avez participé à un ouvrage donc composé par les éditions Créafis à partir des photos de Marie Babet, des photos qui sont entièrement centrées sur le canal Saint-Martin. Et à partir de ces photos, vous avez construit, écrit un texte, un texte poétique. Et alors, c'est très étrange parce que Marie Babet, si on ne le sait pas, quand on regarde les photos de Marie Babet, on se dit, elle fait partie de l'école humaniste, c'est Bouba, tous les grands photographes des années 30, c'est Willy Ronis, et elle joue d'ailleurs sur cette ambiguïté, puisque ce qu'elle décrit alors que ses photographies sont des photographies des années 90 jusqu'à nos jours, ce qu'elle décrit, c'est un canal Saint-Martin qui serait d'une certaine façon hors de l'histoire. Elle nous trompe avec une lectrice sur un banc qui lit un exemplaire de l'humanité, un vieil exemplaire de l'humanité, alors que c'est une photo prise dans les années 90. On ne sait pas pourquoi elle a ce vieil exemplaire de l'humanité dans les mains. Elle nous trompe avec un scaphandrier qui descend au fond du canal Saint-Martin avec la tenue de scaphandrier du 19e siècle de Jules Verne. Et on se dit, c'est très étrange parce que on regarde ce canal Saint-Martin d'une autre façon. On se dit, voilà un endroit où on peut encore avoir des parcelles d'éternité dans une période qui bouge beaucoup. Et ça doit vous intéresser, ça, Jacques Roubaud.
Bien sûr, ça m'a évidemment passionné, ces belles photographies. Et donc, cette espèce d'acharnement à photographier finalement toujours cet endroit, ce morceau du canal. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les photos en main et puis j'ai fait le parcours en notant ce que je voyais, d'abord sur le quai de Valmy, puis sur le quai de Gemap, c'est-à-dire d'un côté puis de l'autre. Et j'ai composé mon poème, qui est une suite en fait de 26 poèmes, avec un principe de disparition. Mmh. Voilà. C'est qu'en fait, oui, ce qu'on voit dans les photos, c'est une tentative de maintenir visible à l'œil, de maintenir dans celui qui regarde quelque chose qui est en train de s'en aller.
De disparaître.
De disparaître complètement. Et donc, la série de poèmes que j'ai fait, c'est ça. C'est-à-dire que les mots qui caractérisent chaque vers disparaissent les uns après les autres. Et finalement, il ne reste plus que canal.
Oui, c'est la toute fin, effectivement, c'est canal. Les derniers, d'ailleurs, sont... les plus représentatifs sont presque l'essence de ce canal Saint-Martin. C'est canal, péniche, café, se souvenir.
Oui. Et là, probablement, c'est presque tout ce qui reste de reconnaissable, qui va rester de reconnaissable au bout de dans assez longtemps.
Oui, et c'est d'ailleurs le propre d'un lieu comme cela qui est rêvé par ceux qui y viennent aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un peu comme le café de la rue Oberkampf, le café Charbon. Ce passé a disparu ou est en train de disparaître, mais on veut, par son rêve, continuer à le faire exister alors que la société autour a totalement changé. C'est là aussi cette ambiguïté du rapport au passé, Jacques Roubaud, que vous pointez par cette série de poèmes.
Avec cet endroit particulièrement emblématique qu'est Hôtel du Nord.
Oui. Donc entièrement reconstruit et jouant sur le décor là aussi d'un film qui lui-même avait reconstruit cet Hôtel du Nord en studio, je crois que c'était à Épinay ou à Boulogne.
C'est ça, à partir de la... qui était déjà nostalgique au moment où il a été fait par rapport au roman de Jeanne Dabi. Et donc, c'est une tendance, cette tendance à la reconstitution muséale.
Au patrimoine.
Du patrimoine, oui, c'est là. L'invasion du patrimoine, l'invasion de la ville par le patrimoine.
Et ça, c'est quand même une vision d'une ville qui, alors on pourrait dire, qui vit parce qu'elle attire sur cette illusion peut-être des millions de touristes, mais aussi c'est une ville qui se meurt progressivement, peut-être aussi en se figeant, en s'interdisant les renouvellements, en s'interdisant les nouvelles... façade qu'elle pourrait se permettre et ce que n'ont pas hésité à faire les générations précédentes en détruisant pour reconstruire, Jacques Roubaud.
C'est ça, et ça a tendance à s'immobiliser, mais bien évidemment, c'est pas réellement possible, je crois. Cette immobilisation n'est pas réellement possible, et on le voit précisément dans le minuscule. On voit dans le minuscule comment ça bouge quand même de manière vivante, même si en apparence c'est immobilisé.
Oui, parce que on aurait tendance à vouloir croire que cette ville donc se fige. Mais elle est renouvelée par ses marges, par ses banlieues, elle est renouvelée aussi par ses populations périphériques. Quand vous partez du centre de Paris en marchant vers les portes, vous y croisez évidemment des populations qu'on n'aurait pas croisées dans Paris il y a 30 ou 40 ans, ou du moins pas en si grand nombre, issues d'Afrique noire, d'Asie, d'Amérique latine, du Maghreb, d'un peu partout, et maintenant d'Europe de l'Est, se mélange dans ces quartiers, ces restes de quartiers populaires des portes, et qui change profondément la vision qu'on peut se faire de la ville. Et cela, c'est le caractère positif, parce que faudrait pas croire que vous avez une approche nostalgique, pas du tout.
Non, pas spécialement nostalgique, un peu, mais pas spécialement.
Comme dans ce poème qui s'intitule Métro, où vous dites « Ah, jeunesse, ah, mais en ces temps-là, n'est-ce pas, il n'y avait pas de station dont le nom de baptême fut Bobigny, Pantin, Raymond Queneau. Ceci compense cela, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui fuit, mais il y a aussi tout ce qui arrive de neuf et qui renouvelle profondément la ville et la capitale, Jacques Roubaud.
Je ne suis pas sûr que la RATP ait pensé en baptisant cette station à la joie que cela aurait causé à Queneau qu'une station de métro s'appelle Bobigny, Pantin, Raymond Queneau. Il aurait été absolument enchanté. Mais il y a des choses comme ça aussi, la merveilleuse rue Georges Perec. Quand je veux penser à Georges Perec, je vais plutôt là qu'au Columbarium du Père Lachaise. Hein. C'est évident, c'est beau. C'est une rue merveilleuse où qui a pas de numéro et qui est une très très petite dans un endroit extrêmement tranquille. Et
il y a. C'est dans quel arrondissement?
C'est dans le 20e. C'est au-dessus de la porte de Bagnolet. Une sorte de petit quartier, un de ces petits quartiers bizarres, avec des petites villas. Et c'est une rue descendante, très courte, et qui est sans numéro. Et il y a simplement les chats. Les chats sont les occupants de cette rue, oui, visiblement jamais dérangés, ce qui aurait beaucoup plu à Georges.
Oui, évidemment, avec les chats en train de regarder la rue Quatre Fages depuis sa fenêtre, évidemment, ça correspond parfaitement au personnage. Mais cela, c'est le caractère positif des changements urbains, Jacques Roubaud, c'est qu'on rebaptise, on renomme, on abandonne, il y a toutes ces rues comme la rue du Dieu où Dieu fut bouilli qui disparaissent, mais il y en a d'autres qui naissent, qui se transforment et qui montrent que une ville comme Paris n'est pas totalement patrimonialisée, ou si elle se patrimonialise, il y a toujours des endroits de résistance à cette patrimonialisation.
Et en même temps, quand on marche, on se dit, on est très souvent amené à se dire que on pourrait faire mieux. Les édiles parisiens pourraient faire mieux. Par exemple, les noms de rues donnés pour honorer des poètes, par exemple, sont rarement bien choisis. L'avenue Stéphane Mallarmé, c'est une catastrophe. En revanche, c'est pour ça que j'ai insisté, la rue Georges Perec, c'est vraiment très réussi. Le métro Bobigny-Pantin-Raymond Queneau, c'est très réussi. Mais dans d'autres cas, ça ne va pas du tout.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ces édiles municipaux vous accompagne dans vos promenades pour pouvoir mieux lire cette ville? Est-ce que le problème, c'est de ne pas marcher dans Paris? C'est-à-dire, c'est ceux qui ne marchent pas dans Paris, ne le comprennent pas vraiment cette ville, Jacques Roubaud?
C'est, à mon avis, possible, oui. En particulier, les automobilistes comprennent très mal cette... puisque ils s'y intéressent uniquement du point de vue du parking. Donc, ils ne peuvent pas connaître Paris.
Et donc, il faudrait qu'on vous suive, non pas dans les promenades, mais qu'on marche à votre rythme ou à votre pas, d'un bout à l'autre d'une rue, pour voir justement ces micro-changements, ces petits changements qui la constituent et qui la reconstituent chaque jour.
Oui, je pense pas que ça serait extrêmement utile. De toute façon, c'est pas ça que je vise. Mais en tout cas, je constate cette parfois adéquation, parfois inadéquation du nom de la rue à ce qui se passe. Par exemple, dans une série de petits films que les Oulipiens ont fait pour de 2 minutes sur des lieux de Paris, vous avez un très très intéressant petit film fait par Olivier Salon de l'Oulipo sur la rue Sarrette. Pourquoi est-ce que la rue s'arrête? Ça dure 2 minutes, mais c'est irrésistible.
Alors d'ailleurs, il faut mentionner en concluant notre conversation, Jacques Roubaud, qu'il y aura une forte activité de l'Oulipo pendant l'été, vous-même au musée Zadkine des lectures. Vous revenez de Brangues, où on a donné hier, donc dans le château de Claudel, des extraits de Graal Théâtre que vous avez composé avec Florence Delay. On aurait pu parler du Moyen-Âge aussi avec vous, puisque c'est une de vos passions, même pas secrète d'ailleurs, puisque révélée dans ce grand cycle du Graal Théâtre. Et donc l'année prochaine, un grand cycle de l'Oulipo qui va réouvrir, comme quoi l'Oulipo n'est pas mort, mais au contraire, continue à se renouveler, Jacques Roubaud.
Oui, il y aura l'année prochaine une série de lectures mensuelles au Théâtre du Rond-Point. Donc c'est une intervention plus directement publique de l'Oulipo qui fait déjà des lectures à la Bibliothèque de France mensuelle.
Merci en tout cas Jacques Roubaud d'avoir accepté d'ouvrir cette semaine avec nous sur Paris, son histoire vue depuis votre regard de marcheur, justement une histoire qui revient sur ce que vous appelez avec Georges Perec et Raymond Queneau la question de l'infraordinaire. Nous évoquerons demain donc dans une mémoire de groupe, la question des Américains à Paris, qu'est-ce qui les a fascinés ou qu'est-ce qui les fascine encore dans cette ville, avant mercredi de nous intéresser non pas à Lyon mais à la Seine, donc avec Isabelle Bacouche et Christophe Charles, et jeudi de faire un débat historiographique sur Paris, capitale du monde, de l'Europe, des arts ou encore de la philosophie au XVIIIe siècle. Merci encore Jacques Roubaud. Précisons que la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains, publié en poésie Gallimard, NRF, donc collection de poches bien connue de Jacques Roubaud. Et puis, que chez Créafis, on peut trouver Canal Saint-Martin, sur les photos de Marie Babé, le texte de Jacques Roubaud, justement, sur cette tentative de maintien du Canal Saint-Martin et de sa mémoire, justement, dans un Paris qui change à grande allure. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Yaël Mandelbaum. La réalisation était confiée à Marie-Christine Closet et la technique à Clément Daté.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 juillet 2007. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site internet de France Culture ou sur l'application Radio France.
C'est dans la banlieue sud que vit celle que j'aime. C'est dans la banlieue sud qu'elle a caché mon cœur. Au bout des larges rues d'Arcueil et de Bourg-la-Reine, où j'ai pris l'habitude d'aller verser mes pleurs. C'est dans la banlieue sud dont je ne sais pas grand-chose, mais je sais qu'elle y dort et c'est là qu'elle est née. C'est dans la banlieue sud, près de la île et rose, qu'on voit fleurir encore, qu'on voit fleurir au cœur de Fontenelle. C'est dans la banlieue sud que j'ai perdu sa trace, et le dernier métro m'abandonne à Cachan. Je prends un autobus et je change à la place.
Mais il est bien trop tard, il est trop tard, et le monde est méchant. C'est dans la banlieue sud que je repartis sans elle, pour dire à tout Paris, pour dire à tout Paris, que l'amour c'est un enfer. Que dans la banlieue sud, une fille est cruelle. Oui, mais je l'ai retrouvée à la fête, à d'enfer. Oui, je l'ai retrouvée à la fête, à d'enfer.